Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Orient. Il est 17h, votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi. Escalade au Moyen-Orient, les frappes se poursuivent entre Téhéran et Washington. Des cibles militaires sont visées des deux côtés. Les négociations entre le Liban et Israël se sont achevées aujourd'hui à Rome. Elles ont été positives selon les États-Unis. La France connaît une situation de sécheresse exceptionnelle et très préoccupante selon la ministre de la Transition écologique Monique Barbu. Et on débute cette édition par l'actualité au Moyen-Orient. L'armée américaine a annoncé la fin d'une vague de 90 minutes de frappe contre des cibles militaires sur l'île iranienne de Grand Tumb à l'entrée du détroit stratégique d'Ormuz. L'Iran a continué à riposter aux frappes américaines. Téhéran s'en est pris cette nuit à des installations états-uniennes au Moyen-Orient, notamment à une base militaire qui abrite des avions de combat en Jordanie. Une nouvelle escalade dans la reprise des hostilités. Et pourtant, Donald Trump affirme qu'un accord avec Téhéran est encore possible. Kevan Gafaiti, enseignant à Sciences Po et président fondateur de l'Institut des Relations Internationales et de Géopolitique, estime que nous ne sommes plus aujourd'hui dans une logique de négociation.
Je serais assez peu optimiste pour tendre vers la logique de discussion. Sur le principe, effectivement, on est toujours dans un cadre de négociation avec des délégations iraniennes et américaines qui continuent d'échanger. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est qu'il est difficile de superposer la négociation à la confrontation, comme vous le dites, mais qui maintenant est vraiment d'une intensité relevée. Vous le disiez, il y a des attaques dans le sud-est du pays, dans l'ouest du pays, dans le sud du pays. Encore ce matin, je le voyais sur l'île iranienne de Khechm, qui est la plus grande île iranienne, en fait la plus grande île dans le golfe Persique. Donc vous voyez qu'on est absolument dans un conflit qui se renouvelle et qui ressemble à ce que l'on avait il y a quelques mois. Donc potentiellement tout est possible, en politique tout est possible, on pourrait avoir un accord. Cependant, lorsque l'on voit d'une part le retour de la politique de pression maximale avec maintenant un aspect coercitif de Donald Trump, mais aussi d'autre part la posture iranienne qui appelle beaucoup à la vengeance, à la confrontation, à ne pas baisser la tête, je pense qu'on ne peut être qu'assez pessimiste.
Vous dites, on est dans un conflit qui ressemble à ce qui s'est passé il y a quelques mois. Tous les progrès qui ont été faits ont disparu aujourd'hui.
Vous avez, alors rappelez-vous, vous aviez un détroit d'Ormuz qui était bloqué, il est rebloqué à présent. Vous avez un embargo américain sur les ports iraniens qui est renouvelé. Vous avez des bases américaines dans le Moyen-Orient qui sont aussi attaquées par l'Iran en représailles. Donc en fait, vous avez une régionalisation du conflit comme par le passé. Les points positifs se font assez rares, malheureusement.
Quels sont aujourd'hui les objectifs prioritaires du régime iranien ? Est-ce qu'il s'agit de sauver sa crédibilité régionale, de rétablir la dissuasion ou pousser Washington tout simplement à revenir à la table des négociations ?
Ces objectifs sont absolument compatibles les uns avec les autres. Ils ne sont pas exclusifs, mais je dirais que l'objectif primaire, c'est évidemment la survie de la République islamique d'Iran. Pour les autorités iraniennes, plus que le programme nucléaire, plus que le contrôle ou non du détroit d'Ormuz, ce qui importe en premier lieu, c'est la survie de la structure constitutionnelle telle qu'on la connaît aujourd'hui en Iran. Ça, c'est déjà le premier élément. Et donc c'est pour ça que vous avez une posture iranienne qui est aussi très cramponnée, qui ne veut évidemment pas donner une quelconque concession et qui n'autorise absolument pas, ne serait-ce que même, je dirais, un principe de discussion sur une évolution vers un autre régime constitutionnel. Or, vous vous rappelez comment, dans les premières phases du conflit en février 26, le président américain disait « Oui, on va négocier la fin de la République islamique. »
Kevan Gafaiti, enseignant à Sciences Po et président fondateur de l'Institut des Relations Internationales et de Géopolitique, au micro de François-Xavier de Calonne. Et les négociations entre le Liban et Israël, qui se sont achevées aujourd'hui à Rome en Italie, ont été positives et le processus de mise en œuvre des zones pilotes dont Israël doit se retirer commencera dans les prochains jours, ont annoncé les États-Unis. Dans le reste de l'actualité au Maroc, le journaliste franco-marocain Ali Lamrabet, arrêté dimanche soir à son arrivée au Maroc, a été remis en liberté aujourd'hui après avoir été auditionné dans le cadre d'une enquête toujours en cours sur sur des publications en ligne jugées diffamatoires, selon le parquet. En France, plusieurs reprises de feux ont été constatées aujourd'hui dans le massif de Fontainebleau et les pompiers sont toujours à l'œuvre pour tenter d'y mettre un terme. Un homme suspecté d'avoir voulu provoquer un incendie près de la forêt a été interpellé hier soir et placé en garde à vue. Un feu qui continue d'inquiéter, a annoncé à l'Assemblée nationale le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez.
Évidemment, nous allons maintenir des moyens importants sur le feu de Fontainebleau qui, même s'il est fixé, continue de nous inquiéter compte tenu de la consistance du terrain avec des tourbières et un feu qui peut redémarrer. Et aujourd'hui, comme vous le savez, il a été fixé certes hier, mais aujourd'hui, ici ou là, il redémarre. Et donc, nous allons d'abord, maintenir le même niveau de moyens importants pour faire en sorte que le feu ne reprenne pas et ne reparte pas. Et si ça venait à être le cas, nous remobiliserons les mêmes moyens aériens, la même flotte aérienne, les mêmes moyens terrestres. Nous le referons, vous pouvez compter sur mon engagement à ce niveau. Pour partie, certaines des mises à feu sont criminelles, sont volontaires en tout cas. Et donc, le dispositif policier et de gendarmerie qui a été mis en place autour du massif pour détecter et pouvoir entraver toute nouvelle mise à feu, il restera également en permanence mobilisé. Il a encore fait ses preuves hier en interpellant une nouvelle personne, mais je laisserai évidemment à Madame la procureure de la République le soin de donner des informations à ce sujet.
Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Et le pays connaît une situation de sécheresse exceptionnelle et très préoccupante, avec un nombre de records de départements concernés par des restrictions d'eau de manière particulièrement précoce, selon la ministre de la Transition écologique, Monique Barbu. Dans un tout autre volet, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, avait donné jusqu'au 14 juillet aux magistrats et aux enquêteurs pour reprendre l'intégralité des plaintes qui touchent les enfants. Il a annoncé cet après-midi à l'Assemblée nationale le recensement de plus de 85 000 plaintes pour violences sexuelles sur mineurs dans les parquets de l'ensemble du territoire français, soit bien au-delà des 70 000 initialement évoqués. Près d'un millier de dossiers de pédocriminalité ont été identifiés comme prioritaires. Gérald Darmanin, ministre de la Justice.
Il y a eu exactement 69 626 dossiers d'affaires criminelles connus par les parquets et délictuels qui ont été absolument réétudiés. Plus 15 000 plaintes découvertes, si j'ose dire, chez les services enquêteurs où les gens sont venus déposer plainte, ce qui porte à 85 047 plaintes aujourd'hui recensées dans les parquets de la République. 38% de ces procédures concernent des faits criminels, 62% des faits délictuels. Dans 83% des affaires, l'auteur a été identifié. Et dans 91% des affaires, malheureusement, non seulement il n'a fait l'objet d'aucune condamnation antérieure, mais pour trois quarts d'entre eux, ils font partie du cercle intime et familial des enfants. 36% des victimes sont encore mineures au moment où nous parlons, c'est-à-dire que 64% des victimes qui étaient mineures sont majeures. On peut penser qu'il y a beaucoup de faits prescrits ou de faits qui ont été déposés, des plaintes qu'on a déposées 20 ans ou 30 ans après, d'où l'imprescriptibilité que je demanderai bientôt avec la ministre de la Santé de voter pour les crimes qui concernent les mineurs. En moyenne, les parquets connaissent des dossiers de 14 mois, c'est-à-dire que nous avons encore beaucoup de travail à faire pour réduire les délais d'études par les parquets. Pour ouvrir d'informations judiciaires, Madame la Présidente, il y a aujourd'hui 970 dossiers prioritaires, soit 1% du stock, qui vont être réglés dans les prochaines semaines.
Gérald Darmanin, ministre de la Justice. Et Jérôme Barella, le principal suspect dans l'affaire Liana, l'enfant de 11 ans retrouvée morte dans le Gers, est entendu à Agen par un juge d'instruction qui devra statuer sur une nouvelle mise en examen. Le gouvernement a présenté un nouveau projet de loi pour renforcer les poursuites et les sanctions liées aux actes racistes et antisémites. Son examen au Sénat est prévu dès le mois d'octobre, avant une transmission à l'Assemblée nationale. L'invité de Pluriel ce soir à 19h sera Arthur Delaporte, député du Calvados et porte-parole du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Il évoque, lui, un combat qui doit être fédérateur.
Ce qui est sûr, c'est que le débat, je crois, sera plus apaisé que lors de la loi Yadan, parce qu'il était mal embarqué, il était conflictuel, il était sur des bases problématiques. Et ce sont les socialistes qui avaient demandé le retrait de la loi Yadan et qui l'avaient obtenu, notamment parce qu'ils voulaient un groupe de travail transpartisan pour refonder des bases plus saines à cette loi, parce que il s'agit de lutter contre le racisme et l'antisémitisme, et que nous considérons que c'est un combat qui doit être fédérateur et non un combat clivant.
L'annonce de ce projet de loi est intervenue quelques jours après ce nouveau plan présenté également par Aurore Berger, un plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Il prévoit de très nombreuses mesures. Exemple, le fait que les lieux mémoriels soient davantage mis en lumière et visités par les plus jeunes. Il prévoit aussi une célébration lors du 20e anniversaire de la panthéonisation des Justes. Ce travail de mémoire, aujourd'hui, il est particulièrement important, notamment pour les jeunes générations.
Ce qui est sûr, c'est qu'il faut le renforcer à chaque fois. On le voit dans les enquêtes d'opinion. Le travail de mémoire, c'est un combat perpétuel. Et qu'à mesure que l'on s'éloigne des événements, je pense en particulier de la Seconde Guerre mondiale, il faut sensibiliser les nouvelles générations, alors que les témoins sont de moins en moins nombreux, à ce qui s'est passé, à ce que l'antisémitisme a pu produire. Mais cela vaut aussi, par exemple, pour l'histoire des crimes coloniaux et de ce racisme d'État qui a prévalu pendant plus d'un siècle.
Aujourd'hui, près de 97% des victimes de discrimination ne portent pas plainte. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Est-ce que c'est d'abord un manque de confiance envers les institutions, une difficulté à apporter des preuves, ou le sentiment tout simplement que cela ne servira à rien ?
Un peu de tout cela. Je pense que le premier effet, c'est que quand on subit un acte raciste, on ne se dit pas forcément qu'on va porter plainte, parce qu'on n'estime pas que ce soit suffisamment grave, alors que ça l'est. On estime aussi que les preuves sont difficiles à apporter, que c'est parole contre parole. Et puis, on se dit peut-être qu'il y a peu de chances que ça aboutisse. Donc, c'est les raisons pour lesquelles, en effet, aujourd'hui, il n'y a peut-être pas assez de plaintes par rapport au nombre d'actes, même si les réseaux sociaux sont un moyen de garder des traces, des preuves de propos racistes, et qu'il suffit de se plonger sur n'importe quel fil de commentaires sous n'importe quelle publication pour y voir des commentaires racistes.
Arthur Delaporte, porte-parole du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, au micro de François-Xavier de Calonne. Et enfin, sur le Mondial 2026, après la dure défaite de la France hier, ce soir, l'Angleterre de Harry Kane, en quête d'une deuxième étoile 60 ans après, fera face à l'Argentine de Lionel Messi, tenante du titre pour rejoindre l'Espagne en finale. Coup d'envoi à 21h. C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.